de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour faire fonctionner nos neurones et nous interroger sur notre cerveau. Quelles sont les techniques développées par les neurosciences qui permettent de l'interroger, voire d'agir directement ou à distance sur le cerveau pour remédier à certains handicaps, faciliter des apprentissages, mais aussi influencer nos comportements? Est-il manipulable par nous-mêmes ou par des esprits mal intentionnés? Le neuromarketing est-il une réalité ou un fantasme? Et qu'en est-il du point de vue éthique? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité Christian Marandaz, professeur de neuropsychologie cognitive, autour de la question « Peut-on manipuler notre cerveau ?» Bienvenue. Bonjour Christian Marandaz.
Bonjour Caroline.
Merci.
Vous m'avez autorisé à vous appeler Caroline.
Absolument. Caroline. Merci en tout cas d'être venue de Grenoble pour être en direct avec nous. Vous êtes professeur de neuropsychologie cognitive au laboratoire de psychologie et neurocognition du CNRS. Vous menez des recherches sur la stimulation magnétique transcrânienne. On va y venir, ça c'est au CHU de Grenoble. Et vous venez de publier aux éditions Les Grandes Petites Pommes du Savoir au Pommier. Peut-on manipuler notre cerveau? C'est une question qui fait tout de même peur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a raison de se la poser, Christian Marandaz?
Oui, alors on a raison de se la poser. On n'a pas de raison peut-être d'avoir extrêmement peur, même s'il faut s'interroger sur les conséquences. Et à cette question, est-ce qu'on peut manipuler le cerveau? Le scientifique que je suis vous dira oui, on a toutes les techniques pour le manipuler, mais manipuler au sens scientifique du terme. En vrai, il faut voir ce qu'on entend par le terme manipulation.
Manipuler, ça veut dire voir comment il fonctionne, tester, faire des essais.
Oui, parce que bon, il y a manipulation, le terme qu'on emploie dans la vie de tous les jours, dans les médias, et ça, c'est très souvent métaphorique, lavage de cerveau, des termes pareils, eh bien, en réalité, jamais on va toucher les cerveaux des personnes. En tout cas, on va pas mesurer qu'on a bien fait quelque chose sur ce cerveau. Alors que quand on dit manipulation du cerveau sur le plan scientifique, quand on fait des expériences, on manipule des variables pour voir leurs effets. Et dans ce cas-là, le cerveau, c'est la variable qu'on manipule pour voir si on arrive à le modifier. Comment, où et est-ce que ça tient dans le temps? Et ça, oui, maintenant, on a les instruments pour le faire.
Autour de la question, peut-on manipuler notre cerveau et jusqu'où? Première piste de réflexion sonore avec le mix Remue-Ménage de Guillaume Ploquin.
Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien.
On peut manipuler le cerveau, on fait que ça d'ailleurs, en fait, par différents moyens.
Les neurosciences cognitives ont été très démarchées ces dernières années par une nouvelle discipline qui est apparue qui s'appelle le neuromarketing. Et aujourd'hui, on a la neuroéconomie ou la neuropolitique.
La question est importante, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut le manipuler et dans quelles conditions. Et avons-nous le droit de le faire, etc.
La stimulation magnétique transcrânienne répétitive est une technique de neurostimulation non invasive qui consiste à générer un courant électrique bref et répétitif sur une région spécifique du crâne.
Une petite nuance que je veux souligner quand même, c'est que quand on parle d'interface cerveau-machine, on parle d'un outil, on ne caractérise pas une interaction.
Maintenant je vis, je suis heureux, j'apprécie, mais ce que j'espère c'est qu'ils prennent contrôle de mon cerveau. Vous n'imaginez pas pourquoi avoir autant mal comme ça. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est votre cerveau.
Le cerveau, imaginez-vous, c'est 100 milliards de neurones. Alors, on ne peut pas énumérer ce que font chacun des neurones, ça on ne peut pas bien le comprendre.
Est-ce la même zone du cerveau qui s'active lorsqu'on lit un mot ou lorsqu'on réalise le geste de l'écrire?
Quand on regarde un petit peu comment fonctionne le cerveau, on se rend compte que dans des régions comme l'aire de Broca, là, il va se passer un phénomène de dissociation tout ou rien entre la condition d'attention et la condition d'inattention.
On joue avec tous les sens, en fait, pour essayer de mystifier à certains moments le cerveau. Mais le cerveau a souvent une idée de rattrapage de ce qui lui semble incohérent.
Il y a beaucoup de questions autour de ce que vous venez de poser.
Beaucoup de questions. Christian Marandaz, vous voulez réagir justement à toutes ces interrogations?
Oui, il y a beaucoup de questions et ce sont vraiment des questions très actuelles. C'est-à-dire que l'enjeu de ce siècle, de ce de cette première partie du millénaire, c'est qui va avoir les outils pour interagir avec le cerveau.
C'est vraiment un enjeu, ça.
Ah oui, c'est vraiment l'enjeu. Comme à la fin du siècle dernier, à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, on a mis tout l'argent, tous les cerveaux sur la physique. Maintenant, c'est clair. Et la physique, combien la physique a évolué, hein. Et dans les années 50, qu'on mettait de l'argent, on n'avait pas prévu les nanotechnologies, les nanocellules qu'on sait faire maintenant. Eh bien, cet argent-là, ces moyens-là, ils sont actuellement mis sur le cerveau, sur comprendre le cerveau.
Alors autour de la question, comment peut-on manipuler le cerveau ? De quoi parle-t-on justement quand on parle du cerveau, hein ? Vous êtes neuroscientifique, professeur de psychologie cognitive. Comment ça fonctionne le cerveau humain ? Qu'est-ce que c'est ?
Bien, le cerveau humain, il est sa matière de base ou son élément de base, c'est le neurone. Et le neurone, c'est un petit élément donc qui est pas intelligent en soi, mais le cerveau en soi n'est pas intelligent. Hein, c'est les questions qu'on lui pose, il répond à des questions qu'on lui pose. Mais l'élément constitutif de base, qui est essentiellement le neurone, lui va transmettre de l'information qui provient d'un neurone à un autre neurone.
Il y a 100 milliards de neurones.
Le chiffre varie, mais si on dit 100 milliards, c'est correct, oui.
Et ce sont les connexions donc entre les neurones qui font l'intelligence ou qui font le cerveau.
C'est exactement ça. C'est ce que je disais, qu'un seul neurone, même si parfois il y a des discussions, fait à lui tout seul rarement quelque chose d'intelligent. Mais c'est la connexion entre les neurones qui est importante, parce que c'est ces connexions, la façon dont les neurones vont dialoguer entre eux, qui font qu'il va y avoir certaines assemblées de neurones, certains neurones vont davantage dialoguer à un temps donné entre eux qu'à un autre moment. Et c'est ça qui fait la fonction cognitive.
Et ils dialoguent comment ? Par des signaux électriques, c'est ça ?
Voilà, le neurone transmet un signal électrique, il le transmet à l'autre neurone par une synapse chimique en général.
Donc c'est une usine électrique et chimique dans notre tête.
Il y a les deux. Les deux, on le sait, par exemple au niveau chimique, tout le monde connaît, par exemple tout ce qui concerne la sérotonine. On parle de sérotonine, toutes les amines, quoi, la cocaïne ou ce que vous voulez. Ce sont des neurotransmetteurs du cerveau. Donc, ils vont jouer dans la communication. Et la plasticité, je sais pas si on peut dire, mais la plasticité du cerveau.
Ah oui, il faut parler de la plasticité du cerveau.
Elle va se jouer là. Elle va se jouer dans les connexions entre les neurones. Bien sûr, elle va se jouer avec la neurogénèse, avec la construction de nouveaux neurones, ou peut-être éliminer certains neurones qui font du bruit dans la communication, mais principalement, c'est ces connexions entre les neurones qui changent en fonction des contraintes du réel.
Et donc vous, quand vous étudiez le cerveau, ou quand on essaye de le manipuler de manière scientifique, il s'agit quoi ? D'observer, d'étudier ces signaux électriques et chimiques, de les stimuler même ?
Alors, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est le niveau de l'observation. Les grands progrès qu'il y a eu à la fin du XXe siècle et qui se poursuivent maintenant, c'est la capacité à aller voir l'activité des neurones.
Sur l'imagerie à résonance magnétique.
Voilà,
notamment.
Avoir une représentation. Donc, les outils sont de plus en plus sophistiqués. Ça permet de voir l'activité de neurones, en sachant que ce n'est pas une photo, hein. C'est simplement on les voit fonctionner, toujours un petit peu avec retard, et après on interprète ce fonctionnement. Là, donc c'est toujours une image que l'on construit, c'est jamais la réalité des choses.
Donc il y a l'observation, enfin la construction de l'image, de ce qui se passe dans notre cerveau, peu près en temps réel.
À peu près en temps réel, par exemple pour l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, il y a à peu près 2 secondes de décalage entre ce qu'on observe. Parce qu'il faut reconstruire le signal, c'est un bruit immense, il faut aller interpréter le signal, c'est le boulot des ingénieurs, et en faire une image.
Alors ça, c'est pour ce qui est de l'observation, mais vous notamment, vous travaillez sur de la stimulation cérébrale magnétique transcrânienne, là vous faites quelque chose, vous n'êtes pas que observer.
Alors,
hein.
Justement, la grande différence, vous avez plusieurs techniques d'observation, on a parlé de l'IRM que tout le monde connaît, il y a aussi l'électroencéphalographie qu'on appelle l'EEG, que beaucoup connaissent également. Ça, on fait qu'enregistrer de manière passive l'activité des neurones. Alors, si on pose des questions au sujet, on se dit, tiens, ben, l'activité des neurones est fonction de la réponse comportementale, émotionnelle ou cognitive qu'a donné le sujet. Mais on fait de la corrélation, on n'intervient pas sur le cerveau. Et vous avez des techniques comme la stimulation, vous avez parlé de la stimulation magnétique transcrânienne, c'est on vient stimuler électriquement un groupe de neurones. Donc on les oblige à travailler à un moment qui les intéressait peut-être absolument pas. Donc on vient bien modifier leur activité.
Et manipuler dans quel but
Eh bien, il y a plusieurs buts. Il y a un but de il peut y avoir un but fondamental de compréhension. On se dit tiens, on s'aperçoit que le cerveau est organisé en lobes, en zones, qui semblent avoir des missions un peu différentes sur le plan cognitif et émotionnel. Eh bien, le but, c'est de stimuler ces zones pour voir si on perturbe les fonctions qui étaient censées être réalisées par ces zones-là. Ça, c'est un premier cas.
On reviendra sur les autres cas ensuite. Ouais. On va d'abord écouter peut-être les têtes raides sur RFI. Ça s'appelle le gratte-poil.
Dans le bleu de nos mains sales se cache un diamant, la peau brune des gitanes. Si tu l'allumes, faudra que tu la fumes. Fume, fume et pédale à patinette dans les nuages là-haut. En général, j'ai le cortex qui roule en solex. Silhouette un peu bancale, emporte ta folle, sillon en diagonale. Faut que tu m'excuses, j'ai le tambour qui s'use. J'ai la matière grise, une souris grise qui s'appelle la Marie, la mala, Marinette. Marie la mamamie, mon petit pois, ma crevette. Je n'ai vraiment que toi, Marie ma Marinette. Marie, Marie, maman, ciboulot, mamillette. Quand Marie, 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 Marinette se met à penser des fois, vaut mieux filer plutôt que de perdre la tête. Surtout qu'il reste encore beaucoup à faire pour terminer cette chanson. On y reviendra plus tard, mais dans l'immédiat, continuons. Un brin de métaphysique éclate que sonne la Java neuroleptique. Tic 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 tic. Dans nos vies souvent banales, on se dit souvent bazardons nos états d'âme. À coup de pif, qu'on se met dans le pif.
Pif,
pif, paf, paf, fessard pédale, à trottinette très, non nos mots ancestraux. C'est ridicule, si t'avances tu recules. Faut plus que j'y touche, j'ai les fils qui estouchent.
Les têtes raides sur RFI autour de la question « Peut-on manipuler notre cerveau ?» Question posée par notre invité, le professeur de neuropsychologie cognitive Christian Marondaz, dans son dernier essai paru au Pommier. Une question que se posent aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de neuroscientifiques. Je propose d'écouter l'éclairage de Sylvie Chocron, que vous connaissez bien, Christian Marondaz. Elle est neuropsychologue, directrice de recherche du laboratoire de psychologie de la perception du CNRS et clinicienne à l'hôpital Rothschild.
Les neurosciences cognitives ont été très très démarchées ces dernières années par une nouvelle discipline qui est apparue qui s'appelle le neuromarketing. Et aujourd'hui on a la neuroéconomie ou la neuropolitique. En fait, de la même façon que tous les objets sont devenus intelligents, tous les domaines sont devenus neuro quelque chose. Et tous ces domaines-là gravitent autour des neurosciences pour essayer en particulier d'avancer sur la compréhension de mécanismes inconscients, non conscients, qu'on pourrait mieux connaître pour les maîtriser. Parce qu'évidemment le problème... Plus on sait qu'on a des processus de décision ou des processus cognitifs non conscients, plus les personnes qui travaillent dans le domaine du marketing, de la finance, de l'économie, de la politique, ont envie d'avoir accès à ces processus non conscients pour pouvoir soit les rendre conscients, soit au moins avoir une action sur ces processus non conscients. Et donc la grande dérive qui pourrait arriver ne viendrait pas directement des neurosciences, mais de la capacité de ces différents domaines, neuromarketing, neuropolitique, neuroéconomie, à s'approprier, quelquefois de manière un peu partielle en plus, des données issues des neurosciences pour les appliquer dans leur domaine. Donc la plupart du temps, fort heureusement, comme les industriels impliqués dans le neuromarketing ou les gens qui essayent de travailler sur la prise de décision n'ont pas accès à toutes les connaissances, souvent ce qu'ils utilisent n'est pas très efficace. Mais on peut pas exclure qu'un beau jour, les gens n'auront pas la capacité de manipuler des cerveaux à leur insu. Donc je pense qu'il y a une éthique des chercheurs en neurosciences et en sciences cognitives qui doit être vraiment très solide pour pouvoir résister au transfert de savoir vers des milieux qui utiliseraient ces connaissances à mauvais escient.
Comment résister, Christian Marandaz ? L'éthique doit être solide, hein, des chercheurs en neurosciences comme vous, aujourd'hui.
Oui, moi je pense, chacun, de manière à son éthique personnelle, faut savoir quand même que la recherche est très encadrée, hein, elle se fait pas comme ça, il y a des comités de protection des personnes, en réalité il y a un encadrement de la recherche.
De la recherche, oui, mais vous parlez des moyens aujourd'hui qui sont investis dans cette recherche sur le cerveau.
Sylvie, à qui je dis bonjour, si je peux, eh bien, a strictement raison dans tout ce qu'elle dit. Mais à mon avis, le danger ne vient pas peut-être d'un mauvais jeu que feraient les neurosciences, les neuroscientifiques avec ceux qui s'intéressent au marketing et la politique ou à quoi que ce soit. Parce que je crois qu'ils n'ont plus besoin de nous du tout en tant que structure de recherche. Moi, j'ai un peu l'impression que des grosses structures qui sont en train de s'assembler, enfin, elles sont encore pas assemblées en tant que structure, mais des organismes comme Google, Facebook, Apple, Amazon, tout ça, a déjà tout dans les tuyaux. Donc des structures qui ont des moyens financiers énormes.
Eh bien, et les moyens financiers énormes qu'ils mettent eux-mêmes dans cette recherche sur le cerveau.
Voilà. Oui, puisque l'enjeu, ça va être de maîtriser le cerveau, de faire des interfaces qui vont permettre de le maîtriser. Et eux ont les moyens de mettre de l'argent, de recruter leur propre personnel, leurs propres scientifiques. Et c'est vraiment pas sûr qu'ils se tournent vraiment vers la recherche standard faite par les États ou quoi que ce soit.
Mais c'est une des premières fois, en fait, que des États, mais que finalement des investisseurs privés, des industriels, mettent de l'argent comme ça dans de la recherche extrêmement pointue, en l'occurrence sur le cerveau.
Oui, c'est la première fois, et ça se comprend quelque part qu'ils le fassent, parce que dans cette recherche-là, c'est pas simplement de la recherche fondamentale, il y a toute une partie technologique, et ce sont des structures qui sont en lien avec la technologie. Donc ils vont développer des technologies, on les voit, des technologies qui vont être reliées aux ordinateurs, aux smartphones, etc. C'est l'aspect peut-être technologie qui les intéresse. C'est comment, de manière technique, je peux aller contrôler le cerveau, faire communiquer ma machine, mon smartphone avec le cerveau.
Parce que c'est ça, en fait, aussi, des enjeux dans la compréhension du cerveau, c'est aussi de le connecter à la machine, de savoir comment il va fonctionner. C'est pas seulement la prise de décision, c'est pas seulement le neuromarketing, c'est vraiment d'essayer de faire des connexions, finalement, du cerveau à la machine et vice-versa.
Oui, moi je pense que tout ce qu'on appelle la communication cerveau-machine, et puis maintenant il y a des petits essais de faire des communications cerveau-machine et de nouveau cerveau, c'est ça l'enjeu qui est visé par la structure GAFA, par Google et les autres. Si j'arrive à faire un système qui permette ces communications, eh bien, j'aurai progressé sur le plan technologique, ça nécessite des avancées technologiques, et j'aurai en même temps avancé sur le plan des connaissances. Et puis, bien sûr, après, sur le plan du commerce, si tout ça est commercial.
C'est-à-dire que c'est au fond, enfin, c'est pas la dernière frontière, le cerveau, mais aujourd'hui, c'est quand même, pour le manipuler ou pas, mais en tout cas pour essayer de comprendre comment il fonctionne, comment le relayer au mieux à la machine et comment s'en servir au mieux, c'est ça l'enjeu fondamental aujourd'hui.
Oui, là je fais que répéter, excusez-moi, la même chose, mais oui, c'est en tout cas l'enjeu de ces structures, et c'est l'enjeu aussi du chercheur, parce qu'une façon de bien comprendre le cerveau, c'est le mettre dans des situations où j'interagis avec lui, et je peux prévoir quelles seront ses réponses, et je pourrais en faire quelque chose. On retrouve là le principe de la communication entre le cerveau et puis, j'ai envie de dire la machine, puisque ça sert des machines.
On va continuer de s'interroger dans 3 minutes, juste après le flash d'info, sur cette communication ou pas, entre le cerveau et la machine, pour découvrir en tout cas comment fonctionne notre cerveau et comment il peut être manipulé et jusqu'où. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie du professeur de neuropsychologie cognitive Christian Marondaz, qui vient de publier aux éditions du Pommier « Peut-on manipuler notre cerveau ?»
Je ne sais pas comment vous pensez le terme manipuler, mais il est clair qu'on sait le manipuler. Hein, le lavage de cerveau, vous avez entendu parler ? Bien sûr qu'on le manipule. Et ceux qui le manipulent le mieux, mais ce sont nous, entre nous. Nous n'arrêtons pas de nous manipuler le cerveau. Alors maintenant, est-ce que vous voulez dire par des techniques sophistiquées, une technologie singulière, par exemple avec l'optogénétique ou l'optoélectronique, ce genre de choses. Donc, je ne sais pas, moi, aller exciter certains groupes de neurones pour qu'ils produisent plutôt ceci ou plutôt moins cela, pourquoi pas. Mais je crois que la meilleure des manipulations, c'est quand même les autres individus.
On ne cesse de se manipuler, de manipuler le cerveau de l'autre. Vous partagez cette réflexion de Dominique Leglu, qui dirige la rédaction de Science et Avenir. Christian Marondaz.
Oui, elle a raison sur le fond. C'est assez clair que le cerveau étant quelque chose de très plastique. Si on prend l'enfant à la naissance, où la plasticité est énorme, qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant? On va l'éduquer. Et en l'éduquant, c'est donc simplement dans la relation à l'autre. Hein, eh bien, en l'éduquant, on est en train de modeler son cerveau.
On le manipule. Enfin, on se manipule tous un peu. On se fait changer. Oui, ça dépend ce qu'on entend par manipulation. Voilà.
Si il n'y a rien de machiavélique derrière le mot manipulation, bien sûr que on fait que ça. Mais moi je dis, peut-on manipuler le cerveau? J'essaie de trouver des arguments scientifiques.
Oui, parce que vous voulez voir en fait quoi, des traces au fond dans le cerveau de ces changements, de ces changements. Manipulations, de ces interactions.
Autrement, on reste à un niveau, un méta-niveau, et c'est pas comme ça qu'avance la science. Et bon, non, c'est le cerveau. Qu'est-ce que c'est? On sait qu'il est plastique, un peu moins avec l'âge, mais est-ce qu'on peut le manipuler? Si oui, comment? Avec quelle technique et qu'est-ce que l'on voit?
Alors, vous parlez dans ce livre aussi de certaines modifications cérébrales auto-induites. On peut soi-même agir sur son cerveau.
Ça rejoint exactement la discussion précédente, que c'est avec l'autre qu'on manipule notre cerveau. On peut manipuler le cerveau de l'autre, mais bien sûr on peut manipuler le nôtre, mais dans le sens que je le fais travailler, le faisant travailler, il est en train de changer. Ce sont tous mes apprentissages. Si j'apprends la musique, si j'apprends du piano, quelque chose comme ça, et bien je vais avoir des doigts plein de cerveau. Hein.
Doigts plein de cerveau. Ouais. Vous mesurez les doigts dans le cerveau, l'agilité des doigts dans le cerveau, les doigts des musiciens.
Avec quand on fait la stimulation magnétique transcrânienne, on commence toujours par mesurer un des muscles des mains. Alors, tout de suite, on sait si on a affaire à un musicien ou pas, parce que c'est hyper représenté.
On peut pas vous cacher ça.
Non, c'est hyper représenté dans le cerveau. Donc, il y a bien une auto-manipulation. Tout apprentissage est auto-manipulation du cerveau. Manipulation étant entendue comme une modification du cerveau. Hein.
Mais est-ce qu'il y a des techniques, justement, du coup, d'apprentissage pour booster son cerveau? C'est possible, ça? Sur Internet, on vend des choses, hein, mais est-ce que ça marche, ça?
Bien, je crois que... Bon, il y a eu plusieurs réponses là-dessus. Le meilleur apprentissage pour booster son cerveau, c'est d'apprendre, de réapprendre et d'avoir peut-être une vie équilibrée.
De dormir aussi,
de
vous
dormir,
dites.
Oui,
c'est
oui.
un bon stimulant, voilà, ça, de dormir.
Oui, parce qu'il y a eu des expériences, on sait, si je parle du sommeil deux secondes, on sait par exemple, bon, bien sûr, on peut booster son apprentissage si on prend de la cocaïne ou des médicaments comme la Ritaline. Il y a eu plein d'essais là-dessus qui montraient que oui, l'apprentissage peut être boosté dans certaines fonctions cognitives, pas dans toutes. Et la dose dépendait l'effet de la dose dépendait du type d'apprentissage, quand c'était fait, etc., avec beaucoup d'effets secondaires. Donc là, il y a eu des études très sérieuses qui montrent qu'on peut le booster, mais il y a un rapport qui a été pris qui est nul à la sortie.
Avec beaucoup de risques en plus. Et que le sommeil, par contre,
le sommeil, on sait que le sommeil, les apprentissages se font de la vie de tous les jours, c'est l'hippocampe, une structure du cerveau qui est en jeu dans les apprentissages quotidiens. Après, il faut les consolider, ces apprentissages, et les mettre ailleurs dans le cerveau. C'est le job du sommeil. Et pour une petite histoire, si vous voulez, eh bien, on pense que le rêve, avec Freud, on s'est dit le rêve, ça joue un rôle, etc. Oui, le rêve, la période de rêve pendant le sommeil joue un rôle. Mais il y a une autre période qui joue un rôle très important, c'est le sommeil lent. C'est le premier sommeil que l'on a, qu'on s'endort, il dure assez longtemps. Et si on renforce d'une manière technique ce sommeil lent, c'est-à-dire le sommeil lent, eh bien, il va y mettre sur le scalp du cerveau, il va y mettre des rythmes autour de 3 Hz. C'est donc très lent. Si on bouge ces 3 Hz avec en mettant des électrodes qui amplifient ces 3 Hz, on s'aperçoit que l'apprentissage est meilleur.
Donc au fond, il faut booster, au lieu de prendre de la cocaïne, il faut mettre des électrodes dans le cerveau pour avoir plus de sommeil lent.
Le plus simple, le sommeil lent, on l'a dans la première partie de
la
nuit.
D'accord, on l'a naturellement.
Voilà. Et puis si on veut booster quelque chose, peut-être essayer cette technique, mais elle est très coûteuse. Et cette technique marche par rapport à les groupes contrôle, mais on n'a jamais transformé des personnes en génies. Hein.
D'accord, merci de me rassurer. Alors, il y a d'autres techniques que vous étudiez aussi, les techniques de méditation dont on parle aussi beaucoup alors, aujourd'hui.
C'est la mode. Justement, on a parlé du sommeil, et quand on est avec le sommeil, on est dans les états de conscience modifiés. Alors maintenant, la recherche est faite par des humains, et l'humain, il a une tendance à suivre la mode. Donc la recherche suit la mode actuellement sur tout ce qui est la conscience modifiée, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, et notamment sur l'hypnose, sur la méditation. Si on prend la méditation, on lui prête actuellement beaucoup de vertus, mais à juste titre, faudrait discuter desquelles, à juste titre. Mais la méditation, c'est un sacré apprentissage. Si vous êtes méditant et méditant expert, c'est pas en 5 minutes que vous le devenez. Donc vous avez...
Éduquer votre cerveau.
Que vous faites un apprentissage, vous modifiez votre cerveau. Donc c'est pas étonnant que ça le modifie. Après, l'intéressant, c'est de dire, mais ça modifie quoi dans le cerveau? Alors là, il y a eu plein de recherches pour dire si je fais de la méditation sur la pleine conscience, liée à l'empathie, à la compassion, est-ce que ça va modifier des parties du cerveau dont on sait qu'elles sont concernées par le traitement de ces sentiments-là?
Et alors?
Et la réponse est oui.
Mais donc ça développe, ça agrandit au fond ces aires-là, quoi, c'est ça. Voilà, ce qu'on a déjà, ça le développe encore plus.
Ça les développe encore plus. Avec une difficulté quand on travaille sur la méditation, c'est qu'on a affaire à des personnes qui sont expertes, donc qui ont fait ça pendant des années. Si on veut trouver un groupe contrôle qui ferait un petit peu autre chose, mais pas de la méditation, on a du mal à faire la démarche expérimentale.
Et oui, c'est ça, en tant que scientifique. Et pour l'hypnose, vous étudiez aussi l'hypnose?
Ça revient beaucoup aussi à la mode parce que il y a l'idée que ça peut être utile en neurochirurgie, en chirurgie tout court, ou la chirurgie de la douleur. Et c'est une ancienne idée et qui a reçu au début des années 2000, à la fin des années 1900, des arguments scientifiques. Comme quoi, la suggestion hypnotique, selon le type de suggestion, allait bien faire des modifications à l'endroit où on les attendait.
Et donc peuvent, alors là, pour le coup, manipuler dans le mauvais ou dans le bon sens notre cerveau, dans le bon sens, c'est ça.
En tout cas, ça montre qu'on peut modifier le cerveau par certaines stimulations, par certaines propositions sous hypnose.
Autour de la question, peut-on manipuler?
Dire que c'est pas si simple que ça, parce que tout le monde n'est pas sensible à l'hypnose.
Tout le monde n'est pas sensible à l'hypnose et tout le monde n'est pas capable non plus de mettre quelqu'un d'autre sous hypnose.
Absolument. Il y a un gros problème de formation. Mais si on veut avoir des preuves scientifiques, si on a le temps, je vous en raconterai une qui est très simple à comprendre. Et oui, il y a bien des arguments scientifiques que sous suggestion hypnotique, on peut faire changer quelque chose dans le cerveau.
C'est-à-dire?
Non. Oh, ce que je vais vous dire est très simple, pour comme preuve scientifique, mais c'est la première. Eh bien, c'était une expérience où on demandait à des sujets de mettre la main dans de l'eau chaude. Et cette eau était à 47 degrés. Donc, à partir de 45, ça commence à brûler. Alors, il y avait deux suggestions hypnotiques. Une première qui était de dire, vous pouvez tourner un bouton, et puis si vous le tournez dans ce sens-là, eh bien, la sensation va diminuer. Ou l'autre était de dire, c'est désagréable, mais bon, c'est pas si important que ça. Donc c'est pas le même niveau d'intervention. Dans les deux cas, on s'aperçoit que ça aide les personnes, et c'est enregistré à l'IRM fonctionnel. On s'aperçoit que la première suggestion qui était, on va baisser la sensation, eh bien, va les faire quelque chose au niveau du cerveau somesthésique, celui qui sent.
Ah, et il sentira que ça a baissé un peu, même si c'est pas vrai.
Donc là, on a bien la preuve. Et l'autre, qui était un métaniveau, va jouer un rôle dans le singulaire antérieur, qui est là pour dire cette chose est désagréable ou pas désagréable.
Mais ça marche, hein. L'autosuggestion ou la suggestion, ça peut marcher.
Ça peut marcher.
Autour de la question, peut-on manipuler notre cerveau puisqu'on le peut, hein. Je propose l'éclairage d'un manipulateur et d'un illusionniste plutôt professionnel. Quelqu'un qui sait jouer avec tous nos sens. C'est le magicien prestidigitateur Claude Gilson, qui a participé d'ailleurs à une des conférences de la semaine du cerveau sur la magie et la perception visuelle. Il a accepté de décrypter pour notre reporter Charlie Dupiot quelques-uns de ses tours sans en révéler tout de même tous les secrets de ses illusions.
D'accord. Je vais vous montrer déjà un des tours les plus classiques de la magie qui s'appelle le tour des anneaux. Alors ces anneaux sont magiques et quand on a ces quatre anneaux, eh bien l'idée c'est regarder comme ça. 1, 2, 3, hop. On parle d'illusion d'optique, regardez là. On aura l'illusion en fait qu'ils sont rentrés aussi là l'un dans l'autre, alors qu'ils sont séparés. Et le cerveau ne peut pas, à mon avis, faire la différence.
Vous jouez en fait avec la vision des spectateurs.
Ça demande un certain travail de dextérité et de savoir également comment maîtriser le regard aussi, l'angle de vue. Une chose peut paraître différente, qu'on la regarde de près ou de loin. Par exemple, vous voyez, si je m'adresse à un enfant et que je lui dis que mes mains sont vides, là, pour lui, les mains sont vides. Si je descends la main, il y a un objet dedans. Ce qu'on utilise aussi beaucoup, c'est le détournement d'attention. J'ai envie de faire disparaître quelque chose pendant une seconde ici, et je vais attirer votre attention là.
Mon regard, en fait, va suivre la main qui bouge le plus rapidement.
Mais pendant ce temps-là, vous ne regardez pas l'autre main, puisque c'est ici que ça se passe. Et là, vous êtes déstabilisé, et ça fait beaucoup de choses. Donc, il y a trop d'informations. Et en vous noyant d'informations, je peux détourner votre attention d'un endroit précis.
Et alors, vous faites appel aux illusions d'optique. Est-ce qu'il y a d'autres sens que vous trompez ?
On joue avec tous les sens, en fait, pour essayer de mystifier à certains moments le cerveau. Il y a des tours qui sont basés sur l'odeur aussi. On peut donner l'illusion à une personne de sentir une odeur précise, notamment des parfums. Il y a un tour qui s'appelle la suggestion des parfums, où on emprunte un mouchoir à une spectatrice, on lui demande quel parfum elle aimerait sentir, et on arrive à lui faire ressentir le parfum qu'elle veut.
Comment ?
Dans les parfums, il y a en fait 4 ou 5 odeurs de base. Par exemple, moi je prends au sauvage de Dior, il y a une base de citron. Bon, si on me fait sentir une odeur de citron en me disant que c'est mon parfum, mon cerveau acceptera l'idée. J'ai simplement une base de 4 ou 5 parfums. Et donc avec ces bases, que je vous donnerai pas parce que c'est secret, dont le citron, eh bien, je peux faire reconnaître le parfum à une personne. Il faut savoir aussi que une des forces des magiciens, c'est qu'un tour ne soit pas basé que sur une seule illusion. Les meilleurs tours de magie utilisent plusieurs moteurs. Moi, j'ai par exemple un tour dans lequel je recueille des pièces que je mets dans un seau à champagne. Et en fait, il y a à la fois la manipulation visuelle, et il y a le son. On a l'impression qu'une pièce va tomber dans le seau parce qu'on en entend le bruit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est tombée. Le cerveau a analysé, il cherche pas plus loin. Il a vu la pièce, il a entendu le bruit. Pour le cerveau, la pièce est dans le seau. Il n'a pas besoin de faire une thèse là-dessus. Donc, il a une réaction normale. Mais le cerveau a souvent une idée de rattrapage de ce qui lui semble incohérent. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on est amené à se poser la question du témoignage humain. Au bout d'un moment, le témoignage humain est pas fiable à 100%. Et puis, quand quelqu'un a donné une version d'un fait, le cerveau humain a du mal à revenir en arrière. On peut croire avoir vu quelque chose. Et là, la magie nous le démontre, effectivement.
Vous voulez réagir, Christian Maranda, à cet éclairage étonnant quand même, hein, du magicien prestidigitateur Claude Gilson au micro de Charlie Dupiot.
C'est étonnant, mais c'est de manière fondamentale vrai.
Et il a compris, il a compris plein de choses.
Alors, il y a plusieurs niveaux, mais c'est vrai qu'on est construit pour fonctionner de manière automatique. Du coup, on ne traite pas tout de manière consciente. Et c'est très économique, ça nous permet de conduire, de faire plein de choses. Et du coup, on peut se faire avoir... S'il y a une petite manipulation dans ce qu'on nous montre, eh bien, on ne la verra pas.
Et le cerveau ne revient pas en arrière. Hein. Il ne revient pas. Quand il a cru comprendre un truc,
absolument.
Il continue dans le même sens.
Il va à l'économie, puis il part sur ce qu'il a appris, sur ses bases à lui. Mais pour ce qui est de la vision, mais ça vaut pour les autres sens, c'est très important, l'attention, pour que ça arrive à la conscience. Pourquoi on ne voit pas? C'est tout simplement que ce n'est pas arrivé à la conscience.
On a vu un truc, mais on l'a pas vu, en fait.
On l'a vu, on l'a traité. Je vais vous donner une autre explication.
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas si c'est un détour. Dans la première, je reviens sur la stimulation magnétique transcrânienne.
C'est pas... Votre spécialité. Vous, c'est là-dessus que vous menez vos recherches.
Alors, la première recherche, une des premières recherches qui a été faite, c'était d'envoyer une stimulation magnétique transcrânienne sur le cortex de la vision, à l'arrière, sur le cortex occipital, à l'arrière. Et si on fait ça, si on présente des chiffres identifiés et on envoie une stimulation magnétique transcrânienne sur ce cortex-là, à l'arrière, occipital, eh bien, les 100 millisecondes après avoir présenté les chiffres, la personne n'est plus capable de les identifier.
Elle a été perturbée par votre stimulation, elle n'a pas vu les chiffres que vous lui présentiez.
Elle n'a pas vu, c'est-à-dire que la stimulation a perturbé l'activité des neurones. 100 millisecondes après, à un moment, il se passait quelque chose d'important pour identifier les chiffres. Et si on continue à chercher, qu'est-ce qui se passait de si important? Eh bien, en réalité, il faut pas 100 millisecondes pour identifier les chiffres, pour les percevoir. Ça va beaucoup plus vite. Mais si je veux dire que ça, c'est un 6, eh bien, je dois faire appel à un processus conscient. Et c'est ce retour à la conscience qui était perturbé.
C'est qu'en fait, on voit les chiffres, mais on n'a pas le temps de les analyser ou de les percevoir consciemment.
Voilà.
Quoi.
Le cerveau les a traités jusqu'au bout, mais ça n'accepte pas.
C'est des images
la conscience.
Subliminales, mais c'est ça.
Voilà,
hein.
Exactement, ça existe. Elles ne persistent pas dans le temps. Mais elles existent, hein. Et si vous présentez un stimulus rouge qu'il faut éviter, eh bien, vous allez l'éviter sans vous en rendre compte.
On peut donc bien manipuler notre cerveau, et notamment au niveau des sens et du visuel, c'est facile.
Ah oui, avec l'attention est nécessaire. L'attention, parce que l'attention est liée à la conscience. Et donc, c'est les questions qui sont posées en général, c'est des questions... Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, consciemment, là, j'ai rien vu.
Mais en fait, j'ai tout vu, mais en fait, j'ai rien vu.
J'ai rien vu.
Autour de la question, peut-on manipuler notre cerveau? Illusion, donc, ou réalité? On écoute Ibrahim Malouf sur RFI, Illusion, extrait de son dernier album. You're speaking no- Les illusions d'Ibrahim Malouf sur RFI. Nous sommes en compagnie du professeur de neuropsychologie cognitive Christian Marandaz. Autour de la question, peut-on manipuler notre cerveau pour le pire, mais aussi pour le meilleur? Les neurosciences permettent en effet de mieux comprendre certains dysfonctionnements d'apprentissage, comme tout ce qu'on appelle les dys, hein, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, et ce dans toutes les langues du monde. C'est l'éclairage du professeur Ahmed Ahami, psychologue et neurobiologiste à la faculté des sciences de l'université Ibn Toïfal de Kenitra, au Maroc, avec qui vous collaborez, Christian Marandaz, dans le cadre du groupement de recherche internationale en neurosciences cognitives comportementales. On écoute le professeur Ahami et vous réagirez ensuite à ses propos.
Il n'y avait pas d'outils ni de techniques de diagnostic, notamment chez les arabophones. Chez les sujets francophones, il y avait cette possibilité parce qu'il y a beaucoup de tests en France, dans la communauté française, mais chez les arabophones, on avait beaucoup de problèmes.
Professeur Ahami, il fallait mettre au point en fait des tests en langue arabe.
Ou en langue française, mais adaptée aux populations francophones bilingues. Parce que, comme vous savez, le Maroc, nous sommes bilingues, français, arabe. Et il s'avère que beaucoup de tests que nous avons mis en place, validés sur la population marocaine bilingue, ils étaient très, très efficaces pour le dépistage précoce et aussi pour la remédiation cognitive de ces troubles d'apprentissage, de la lecture et de l'écriture.
D'où l'intérêt de cette recherche et de ces laboratoires de neurologie sur place dans les pays concernés pour pouvoir faire de la recherche appliquée, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Parce que je crois que on ne sera jamais assez en lumière un peu la recherche en réseau et surtout le transfert du savoir scientifique, du savoir-faire de la France vers les pays du Sud. Et je crois que la mise en place d'un GDRI, le groupement de neurosciences cliniques fondamentales, pour le développement de la neuroscience cognitive et clinique appliquée à l'éducation et à la santé. Un autre exemple qui rentre dans le cadre de transfert des techniques scientifiques ou des savoirs scientifiques de savoir-faire au pays du Sud, je cite l'exemple de tracés numériques. Les tracés numériques, vous savez, c'est à l'aide d'un stylo numérique doté d'une lumière infrarouge pour capter les tracés, c'est-à-dire l'écriture, chez les sujets souffrant d'apprentissage ou non. Et nous avons jusqu'à maintenant récolté un certain nombre de sujets, plus de 1200 sujets, pour étalonner cette technique, les tracés numériques, pour voir l'activité des neurones, qu'ils soient arabes, chinois ou français. Et c'est presque universel, parce que dans la mesure où le sujet est soumis aux mêmes modalités d'apprentissage, c'est-à-dire l'écriture et de lecture, qu'il soit de gauche à droite ou à l'inverse, peu importe, mais c'est l'activité des neurones qu'il s'agit. Et donc, ça nous intéresse, on est en train d'essayer de comparer cette base de données. Donc on récolte des données chez les Japonais, chez les Marocains bien entendu, et chez les en Côte d'Ivoire, parce que nous avons des collaborations dans le cadre de notre thèse doctorale, j'ai des doctorants, où nous avons récolté des tracés numériques chez des sujets exposés aux pesticides, aux organophosphorés, et chez des sujets qui sont supposés sains. Effectivement, l'analyse en cours, ces techniques appliquées sur d'autres populations peuvent être riches de renseignements.
Voilà de vraies mises en réseau de cerveau, une belle collaboration internationale en neurosciences cognitives, Christian Marandaz.
Oui, et on doit cette collaboration nationale au CNRS. C'est le CNRS français, le CNRS marocain, qui à un certain moment a donné les moyens, et il continue à les donner, puis après on peut faire l'Europe à participer également, pour développer la recherche en neurosciences, et notamment en neurosciences cognitives. Mais il faut savoir par exemple qu'au Maroc, il y a encore très peu de recherches en neurosciences cognitives comme en France, c'est-à-dire les neurosciences cognitives, comme la neuropsychologie cognitive, c'est chercher les sous-bassements cérébraux du comportement.
Et ces recherches-là, elles sont aux États-Unis, en France, pas mal avancées, mais vrai que ça fait, voilà. Ce sont des recherches qui sont avancées dans les pays dits avancés.
Voilà, simplement parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte des moyens.
D'étudier le cerveau, de comprendre son fonctionnement, voilà. De comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent à la conscience et pas d'autres.
Oui, ça demande énormément d'outils que certains pays ne peuvent encore pas se avoir, quoi.
Et pourtant, ces informations, parce qu'il s'agit au fond de traitement de l'information par notre cerveau, elles intéressent, vous l'avez dit en début d'émission, de grands groupes, hein, on a cité Google, Facebook et autres, qui sont très intéressés par tout ce traitement de nos des informations par notre cerveau, par ce qui arrive à la conscience et par ce qui n'y arrive pas. Vous avez parlé d'images subliminales, de choses comme ça, ça intéresse les publicitaires, évidemment. On pourrait quand même, mieux on comprend notre cerveau et plus on pourra nous vendre de choses. C'est quand même ça qui excite beaucoup aujourd'hui.
Oui, mais oui, bien sûr. Et là, on va retrouver toutes les discussions sur le neuromarketing, sur la neuroéconomie ou la neuropolitique, si elle existe. Mais je pense que moi, je reviens toujours sur l'idée que l'enjeu de Google, Facebook, il est tout à fait autre chose. Bien sûr, in fine, ça peut être de la manipulation, mais c'est surtout d'aller vendre des outils qui va faire que peut-être je vais surdimensionner certaines fonctions.
Ah, augmenter notre cerveau, les hommes augmentés, c'est ça quand même.
On va retrouver des petites idées comme de l'homme augmenté, mais en tout cas, je vais pouvoir le connecter à un outil que je pourrais transporter avec moi. Alors que, on a vu le problème avec le professeur Ami, c'est que ça coûte très cher de faire la recherche. Eux, ils auront les moyens peut-être de mettre des outils qui coûteront beaucoup moins cher.
Pour connecter nos cerveaux à des machines, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur aussi, mais aussi pour le pire.
Voilà, ça demande vraiment le développement d'une neurosécurité, d'une neuroéthique.
Bon, on va s'arrêter là-dessus, sur ce développement souhaité d'une neurosécurité, d'une neuroéthique. Merci Christian Marandaz d'être venu en direct nous faire partager vos interrogations et vos pistes de recherche. Je rappelle le titre de l'essai que vous venez de publier dans la collection Les grandes petites pommes du savoir au pommier. Peut-on manipuler notre cerveau? La réponse est donc oui, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Heureusement, demain, comme tous les vendredis, amis auditeurs, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro. Quant à nous, on vous donne rendez-vous lundi en direct de Fès, du Festival des Musiques Sacrées et surtout du Forum Fès au miroir de l'Afrique. Pourquoi Fès l'Africaine? Vous le saurez lundi, dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.